Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Le Rio de la Plata, la musique et le monde, 40e épisode, 1939, le retour des caravelles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de nos Carrefours des Amériques, puisque nous arrivons au bout de notre chemin alors que les années 1930 s'achèvent et que la guerre éclate en Europe. En Argentine comme en Uruguay, les présidents en exercice passent la main après les élections. En Uruguay, un progressiste succède à un dictateur et en Argentine, Ortiz a remplacé Pedro Justo et tente de rétablir un peu plus de démocratie jusqu'aux élections législatives de 1940. L'armée, cependant, envoie Juan Domingo Perón en mission d'études en Europe en 1938, notamment en Italie, où il est fasciné par le socialisme national de Mussolini qu'il préconise pour l'Argentine. En décembre 1939, un cuirassé allemand cerné par des navires britanniques est coulé par son équipage dans le port de Montevideo et le capitaine se donne la mort. Mais la neutralité est de rigueur, en Argentine, en Uruguay et aussi pour l'instant aux États-Unis. Cette année-là, à Chicago, le pianiste noir Jimmy Yancey, célèbre pour la subtilité de ses boogie-woogies, compose et enregistre des blues particulièrement poignants comme son fameux How Long Blues, avec à la main gauche ce dessin rythmique très accentué qui lui est familier et qui semble lui avoir été inspiré par le tango habanera. Aux États-Unis et en Amérique du Sud, qui veulent oublier l'imminence d'un conflit mondial hors des frontières d'Europe, la vie culturelle bat son plein. En Argentine, le jeune Alberto Ginasteras s'affirme déjà comme l'un des plus importants compositeurs du pays. À 22 ans, il décroche son diplôme de fin d'études au Conservatoire de Buenos Aires avec son psaume 150 pour chœur et orchestre. C'est l'année où il écrit aussi ses chants de Tucumán pour voix, flûte, harpe, et une percussion héritée des indigènes qui ont peuplé ce territoire dans le nord argentin, au pied des premiers contreforts des Andes. Une œuvre créée le 26 juillet 1938 à Buenos Aires et couronnée du prix national de la musique. La mezzo-soprano Dana Fortunato chante ici avec le trio Mélisande des États-Unis. « Mi vida, aime-moi d'un amour qui ne finira jamais, vidalita, de la terre au ciel et du ciel à la mer. » Algarrobo, c'est si bon d'être avec toi sous le caroubier quand chantent les cigales.
Andando mi hai stichirir, si es que no mi quieres ya. Vida, 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 vida. restreinar. Vita, 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 vita.
Les chants de Tucumán d'Alberto Ginastera. En 1939, loin du fracas des canons en Europe, Eduardo Armani et son orchestre de jazz argentin animent les soirées de Buenos Aires, tant en ville que sur les bateaux de croisière dans le port ou alors en direct à la radio El Mundo. Comme l'argentin Terry Tucci, l'ami de Carlos Gardel à New York, la musique d'Armani dès les années 40 se teinte d'accents caraïbes et colombiens, par exemple quand il chante ici la Ciudad Porteña. La ville Porteña, on pense tout de suite à Buenos Aires. Eh bien non, il s'agit d'un autre port, Cartagena, Cartagène des Indes en Colombie, les échos d'une nuit argentine qu'on n'imaginait sans doute pas aussi tropicale.
Cartagena, ciudad porteña, por tu puerto y por tu mar, tu bahía belleza diseña, que nadie puede igualar. La tradición nos enseña que eres el puerto ejemplar, en ti natura pergueña, riquezas que han de envidiar. Cartagena, ciudad porteña, por tu puerto y por tu mar, Cartagena, ciudad porteña, por tu puerto y por tu mar. Thank you.
pasar. Tu bahía de Dios es la seña y es prodigio universal. La tradición nos enseña que eres el puerto ejemplar. En ti natura pergueña, riquezas que han de envidiar. Cartagena, ciudad porteña, por tu puerto y por tu mar. Cartagena, ciudad porteña, por tu puerto y por tu mar.
Ces années-là, le compositeur argentin Gilardo Gilardi écrit une œuvre dont le titre est mystérieux. Piruca et moi. On dirait un clin d'œil à Juan Ramón Jiménez et à son poème Platero et moi, dans lequel un enfant andalou dialogue avec un petit âne qui l'aide à mieux comprendre tous ceux que la vie a meurtris ou laissés sur le bord du chemin. Les titres de Piruca et moi de Gilardi ne sont pas anodins, ils sont plutôt prémonitoires, en regard des départs et des exils à venir. Piruca veut partir, Piruca s'en va, Piruca veut revenir et finalement Piruca revient. On songe au voyage de l'écrivain Witold Gombrowicz qui débarque le 21 août 1939 à Buenos Aires comme invité d'un voyage promotionnel organisé par une compagnie maritime polonaise. Quelques jours plus tard, les nazis envahissent la Pologne. Gombrowicz demande l'asile à l'Argentine où il réside jusqu'en 1963. Dans son roman de 1937, Ferdi Durk, il est déjà question d'errance. Le narrateur semble perdu dans le temps, dans l'espace, dans un univers qui n'est plus le sien. On a même dit que Ferdi Durk, c'était comme Gombrowicz en Argentine, une sorte de Don Quichotte polonais.
Thank you.
Elias Kayat à la tête de la Camerata Bariloche dans Piruka veut partir de Piruka et moi, une œuvre de Gilardo Gilardi. En 1939, la France apporte aussi son lot d'exilés au Rio de la Plata. La cantatrice Jeanne Bathory est invitée à nouveau en juin 1939 par le groupe de Rénovation Musicale. Jeanne est heureuse. Depuis plusieurs mois, elle a une liaison en France avec la comédienne belge André Tinsy, que Sacha Pitoëf vient d'engager. Quand Jeanne revient en Europe, les deux femmes décident de fuir la guerre. Elle s'exile le 2 décembre 1940 en Argentine, où elle reste durant tout le conflit. André Tinsy fait des tournées en Amérique du Sud avec des compagnies théâtrales francophones. Elle tourne même un film au Chili, tandis que Jeanne donne des cours de chant à l'Institut français d'études supérieures de Buenos Aires. En 1939, leur amie Madeleine Gray donne aussi des récitals à Buenos Aires et à Montevideo. À son retour en Europe, menacée plus que tout autre par les nazis, elle s'exile aux États-Unis. Pour l'heure, au Rio de la Plata, elle est fêtée par les mélomanes. Elle vient de participer en 1938 en France au concert commémoratif organisé après la mort de son ami Maurice Ravel. Il la dirige ici dans les chansons madécas qu'elle a créées en France. Elle est bouleversante dans la deuxième mélodie qui dénonce le colonialisme. Méfiez-vous des blancs habitants du rivage. Madeleine Gray, accompagnée par un trio placé sous la direction de Maurice Ravel dans « Aoua », la deuxième de ses chansons madécas. En France, le poète Jules Supervielle, complètement anéanti par les événements en Europe, embarque le 2 août 1939 pour l'Uruguay, où il passe les années de guerre dans son estancia. C'est chez Supervielle que Victoria Ocampo rencontre l'écrivain Roger Caillois au début de l'année 1939. Elle l'invite à donner des conférences en Argentine et à résider dans sa villa de San Isidro. Une passion est née qui se transformera en belle amitié. Caillois rencontre Jorge Luis Borges à Buenos Aires et deviendra après la guerre le diffuseur de son œuvre en France. L'écrivain français rallie le Comité argentin pour la France libre, dirige l'Institut français de Buenos Aires et fonde en 1941 la Revue des lettres françaises. Il rencontre aussi le compositeur et chef d'orchestre argentin Juan José Castro, très proche de Victoria, qui s'apprête à accueillir Manuel de Falla cette année-là en Argentine. Il est en 1939 au sommet de son art et écrit une sonate pour piano dont l'allegro final est une sorte de ragtime jazzy très argentin. Le pianiste argentin Mauricio Löfval dans l'allegro de la sonate numéro 2 de Juan José Castro.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
En cette fin des années 30, la littérature argentine est en deuil. Horacio Quiroga, qui souffre d'un cancer, met fin à ses jours le 18 février 1937. Un an après, jour pour jour, c'est son ami Leopoldo Lugones, de 4 ans son aîné, qui se donne la mort dans une station balnéaire du delta du Paraná. Mais le suicide qui a le plus bouleversé les Argentins, c'est celui de la poétesse si aimée de tous, Alfonsina Storni. Atteinte elle aussi d'un cancer, elle s'installe dans un hôtel de Mar del Plata et se laisse emporter par l'océan en octobre 1938. Elle a souvent évoqué dans ses poèmes la mer couleur de cendre noire où on peut s'engloutir. Cette mort tragique a inspiré à Ariel Ramírez l'une de ses plus belles chansons que Mercedes Sosa a fait connaître dans le monde entier. Sur le sable doux que baigne la mer, la trace de ses pieds vont vers les vagues, mais n'en reviennent pas. Alfonsina, quelle angoisse t'accompagnait jusqu'à l'écume. Quelles douleurs anciennes taisais-tu quand tu t'es lovée dans les conques marines qui t'ont bercé de leur chant au fond de l'eau.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
En 1939, les exilés espagnols continuent à venir nombreux aux Amériques. À Grenade, Manuel de Falla est horrifié par la répression franquiste. L'exécution de Lorca l'obsède. C'est alors que lui parvient une invitation de l'Institut culturel espagnol d'Argentine pour donner là-bas des concerts. Le 2 octobre 1939, il embarque à Cadix avec sa sœur Maria del Carmen. Il a mis en chantier son Atlantide, dans laquelle, à la fin, le chœur chante les caravelles de Christophe Colomb qui prennent la mer pour découvrir un nouveau monde guidé par l'étoile divine de l'espérance. L'ange qui protégeait hier Grenade déploie aujourd'hui ses ailes sur la mer. Et voilà que les caravelles volent vers le soleil. Elles volent et elles s'éloignent. Et les fils d'Ibérie prient l'étoile de la mer.
Thank you.
Edmond Colomer à la tête des chœurs canariens et du jeune orchestre national d'Espagne dans l'épisode des Caravelles de l'Atlantide de Manuel de Falla. Manuel de Falla et sa sœur qui arrivent à Buenos Aires le 18 octobre, le compositeur se met aussitôt au travail et rencontre Juan José Castro qui a organisé les quatre concerts qu'il doit diriger avec lui au Théâtre Colonne. Juan José Castro a eu un rôle décisif durant tout le séjour de Falla en Argentine. Lors du premier concert le 4 novembre, il dirige la Symphonie Sévillane de Turina et la version intégrale de L'Amour Sorcier et laisse la baguette à Manuel de Falla pour Iberia et Catalonia d'Albéniz. Le 11 novembre, Castro débute le concert avec la Sinfonietta d'Ernesto Halffter et Falla le termine avec Nuit dans les Jardins d'Espagne. Mais juste auparavant, le compositeur andalou avait arrangé et dirigé une série de polyphonies espagnoles des 15e et 16e siècles, des œuvres de Morales, de Juan de Encina, d'Escobar, de Victoria et enfin de Guerrero, qui était son préféré, dont le Prado Verde y Florido, que Manuel de Falla dirige ici lui-même, à la tête d'un chœur argentin préparé pour l'occasion. Prévert et fleuri, et vous, Fontaine, comptez mes peines à celles que j'aime. Manuel de Falla qui dirigeait ici un chœur argentin dans cette œuvre de Guerrero. Lors du troisième concert le 18 novembre, le compositeur dirige des œuvres des Valenciens Joaquín Rodrigo et Oscar Espla. On voit donc l'intérêt qu'il portait à présenter la musique espagnole dans toute sa diversité. Puis la soprano Conchita Badilla qui venait de s'exiler est la soliste de la deuxième partie du concert avec Psyché et le sonnet à cordoux, juste avant le concerto pour clavecin. Le sonnet écrit par Góngora est un magnifique hommage à la splendide ville andalouse et à son fleuve Guadalquivir, cette Andalousie que venait de quitter Manuel de Falla. La salle, évidemment, contenait son émotion. Ville majestueuse, ô grand fleuve, roi d'Andalousie en tes plaines et tes montagnes, ô ma patrie, ô la fleur de l'Espagne.
Río, gran rey de Andalucía.
Conchita Badilla et la harpiste Nelida Esther Janeo enregistrés lors des concerts de Manuel de Falla à Buenos Aires. Durant le séjour du compositeur espagnol, l'Andalousie a été très présente au mois d'octobre 1939 dans le Rio de la Plata. Le grand cantaor flamenco Juan Mendoza, qu'on appelait El Niño de Utrera, Utrera près de Séville, a fui le franquisme. Il s'est réfugié en Argentine. Il a chanté tout le mois à Montevideo et à Buenos Aires, où il a vécu ensuite presque toute sa vie. Il chante ici Castillitos de Arena, un tango andalou de Cadix. Le vent sur la plage a balayé les petits châteaux de sable.
Un castillito de arena, yo levantaito en la playa, con torre de cisarmena y alrededor la muralla. Jugando con mi morena, y fabricando mi arcasa, como era solo de arena, los barrios el viento los llevo el agua. Como era solo de arena, los barrios el viento los llevo el agua. Ay, castillito de arena, tiene el aire del Guante, torre de mi azucena, y la y le dejo caer. Malaya, el aire, malaya, y el agua que me lo hundió. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Aquel cariño morena que me ofreciste en la playa, como el castillo de arena perdió su torre muralla. Aquel querer de tormento, tanta fe y tanta esperanza, tanto amor y juramento, los barrios el viento los llevo el agua. Tanto amor y juramento, los barrios el viento los llevo el agua. Ay, castillito de arena, que en el aire levanté, torre de miel y azucena, y el aire de los cae. Malaya, el aire, malaya, y el agua que me lo hundió. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Malaya, el aire, malaya, y el agua que me lo hundió. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó.
Le chant flamenco del Niño de Utrera. Le concert du 18 novembre 1939 au Théâtre Colonne, dirigé par Manuel de Falla, s'était achevé par la création mondiale des quatre hommages pour orchestre symphonique, une œuvre qu'il a dirigée à nouveau lors du quatrième concert avec le Tricorne. Dans ses hommages à Arbos, Claude Debussy, Paul Dukas et Felipe Pedrell, l'hommage au tombeau de Debussy est le plus ancien. De Falla l'avait composé en 1920 avant de l'adapter pour le piano. Un hommage dans lequel il cite la soirée dans Grenade du compositeur français et qu'il a révisé lors de la création dans sa version symphonique à Buenos Aires. En Argentine, le compositeur andalou ne se sent pas vraiment comme un exilé. Il songe à repartir un jour dans une Espagne apaisée, mais en même temps, il pressent qu'il ne reverra jamais plus son pays. Il apprend avec tristesse que son Carmen de Grenade a été saccagé. Sa santé est très fragile. Il est très affecté par la situation d'amis internés ou condamnés à mort par le régime franquiste. Il est heureusement entouré d'amis fidèles. Presque tous d'ailleurs sont des exilés républicains. Quant aux amis argentins, ils avaient tous soutenu la République. De Falla n'a pas oublié non plus les réfugiés espagnols en France et il fait un don important à l'hôpital de Toulouse. En 1940, il quitte la capitale argentine et s'installe à Córdoba dans les montagnes au nord-ouest de Buenos Aires où il dirige un concert le 3 mai. Il confie bientôt à son élève Ernesto Halfter le soin de terminer son Atlantide qui sera créée en Argentine sous la direction de Juan José Castro. Ce n'est qu'en 1942 qu'il va vivre à Altagracia, au sud de la ville de Córdoba, dans un chalet où il est mort en 1946. Les 8 et 15 décembre 1940, les deux concerts qui ont été donnés en public à la radio El Mundo ont été enregistrés. C'est le seul document sonore qui existe de la voix de Manuel de Falla, qui remercie ici le public argentin.
Sirvan también estas palabras para expresar a las entidades que con sus invitaciones igualmente me honraron mi constante propósito de corresponder a ellas con la visita que he de hacerles cuando pueda volver a Buenos Aires con el descanso y la amplitud de tiempo que muy a pesar mío no tuve entonces ni tengo ahora. Reciban todos desde hoy, así como cuantos me escuchan, el saludo que de corazón les envío.
En guise de revoir à Manuel de Falla, cette milonga argentine, qui est une des deux chansons composées par Alberto Ginastera en 1938, la chanson à l'arbre d'oubli, la canción al árbol del olvido, qu'il a adaptée pour le piano. Et puisque nous avons rapproché l'amitié entre Juan Ramón Jiménez et son âne Platero de celle de Gilardo Gilardi pour Piruka, il est bien qu'on se sépare aussi de Piruka. Piruka s'est ido, Piruka est parti. Elias Kayat et la Camerata Bariloche dans Piruka se ha ido, Piruka est parti de Piruka io, Piruka et moi, de Gilardo Gilardi. À la fin de notre voyage, et pour se quitter, rien de tel qu'une musique de Mariano Mores, tellement aimé des Argentins. Il compose son premier tango en 1939, il a 21 ans, et il va bientôt travailler avec les plus grands comme Enrique Santos di Cepolo et devenir un incontournable du tango. Une de ses plus célèbres milongas sera même créée au théâtre Colonne, avant d'être chantée dans un film à succès au début des années 50. Cela plaisait beaucoup au général Perón, qui dirigeait le pays, de voir ainsi ce temple de l'opéra bourgeois qu'il méprisait plus tôt s'encanailler enfin. Il s'agit de la fameuse milonga Taquito Militar, en référence au talon des bottines militaires qui ressemblait à celle qu'utilisaient les danseurs de tango des quartiers populaires. Mores lui-même disait qu'on entend au début les coups de talons que donnaient les compadres, les mauvais garçons tangueros, en amorçant la danse pour attirer une partenaire. Cette milonga a traversé les ans et s'est dégagée de certains miasmes peu sympathiques du péronisme pour devenir en l'an 2000 l'une des plus appréciées par les Argentins. Le chef d'orchestre Lucio Bruno Videla l'a arrangé pour petit orchestre et enregistré à Vienne lors d'un concert en 2003, et les musiciens de frapper le sol de leurs chaussures vernies.
Thank you.
Se quitter le Taquito Militare de Mariano Mores, c'était Lucio Bruno Videla à la tête de l'orchestre classique latino-américain enregistré à l'Université des Arts de la Musique de Vienne en 2003. Merci aux amis argentins et uruguayens qui nous ont si généreusement aidés dans nos enquêtes, Luis Ascot et Obdulio Mengui, et nos deux compères de la Radio Nationale Argentine, Boris Lawrence et Claudio Castro, et les archives qu'ils nous ont confiées, et tellement d'autres. Merci à vous tous aussi d'avoir parcouru avec nous ces carrefours des Amériques, une série d'émissions des médias francophones publics toutes réalisées par Béatrice Trichet, en grande magicienne des sons, à la prise de son, Éric Boisset. Ce sont des émissions qu'on peut écouter et réécouter en podcast.